Notre question, qui est Vladimir Poutine? Notre invité.
Je suis Katerina Piskunova, chargée de cours à l'Université de Montréal et chercheuse au CERIUM.
Et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. Ekaterina Piskunova, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour bien comprendre le Vladimir Poutine d'aujourd'hui, je pense qu'il faut bien saisir d'où il vient, quelles sont ses origines. Il est né à Saint-Pétersbourg, appelé à l'époque Leningrad, en 1952. C'est donc véritablement dans les rangs du KGB, n'est-ce pas, qu'il forge sa personnalité?
Je pense qu'il y a encore un élément à apporter à sa biographie, un élément qui est peut-être un peu moins connu par le grand public. Oui, c'est le système de services secrets qu'il a formé, mais c'est aussi la cour du bâtiment avec un appartement très modeste où il a passé son enfance, dans une région, dans un quartier pas nécessairement très aisé et très sécuritaire de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. C'est un homme, c'est un garçon de petite taille qui s'est fait un peu bousculer par ses pères dans la cour et qui a décidé de régler le problème en s'inscrivant au cours de judo et d'autres arts martiaux. Alors, je pense que cette partie de personnalité, cette partie de son enfance qui est moins connue est très importante. Mm-hmm. Alors, c'est quelqu'un qui est prêt à faire vraiment beaucoup pour se protéger et pour s'imposer quelque part dans la communauté.
Et avec le judo, on connaît le principe, on utilise les forces de l'adversaire pour le vaincre. Vient ensuite son entrée au service secret soviétique, le KGB, oui, ce qui l'amène en Allemagne. Et là encore, sa vision du monde est forgée par cette expérience quand même.
Absolument. Non seulement par cette expérience, mais par toute la préparation qu'il a eue. N'oublions pas la raison d'être des services secrets en général, c'est la protection de la souveraineté du pays. Comment le traiter, comment le concevoir, ça c'est un autre débat. Mais le moteur, en fait, le pilier de la formation, c'est la protection de la souveraineté du pays et la vision du monde, on va dire, assez manichéenne, en noir et blanc. Il y a des ennemis et il y a les siens qu'il faut protéger à tout prix.
При осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
L'an 2000, il amorce, Vladimir Poutine, son premier mandat à la tête du pouvoir au Kremlin. Là, on avance vite dans le temps, j'en suis conscient. Mais je cherche ici à comprendre, avec vous, Madame Piskunova, comment s'est orchestrée son ascension fulgurante au pouvoir. Il faut se rappeler que c'était sous l'égide de Boris Yeltsin, après un passage à la mairie de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qu'on doit retenir?
C'est une excellente question dont on ne parle pas beaucoup, malheureusement. Donc, c'est vraiment important de s'y attarder. En fait, c'est quelqu'un qui paraît venir de nulle part, sans être un parfait inconnu, parce qu'effectivement, il y a eu la mairie de Saint-Pétersbourg, il y avait aussi le passage à la tête des services secrets, ne l'oublions pas.
Le FSB.
FSB, bien évidemment, l'héritier du KGB. C'était pas quelqu'un qui a été connu du grand public. Et c'est intéressant quand j'y pense, je pense que l'ascension de Vladimir Poutine, c'est le reflet de l'attention beaucoup plus profonde qui a été présente pendant toutes les années 90, les années de Boris Yeltsin, la lutte entre ceux qu'on appelle aujourd'hui les oligarques. Mm-hmm. Et les services secrets qui se sont vus tassés par ces oligarques à une position extrêmement vulnérable et pas aussi importante qu'ils occupaient pendant les années soviétiques. Donc, je pense qu'il s'agit ici d'un genre de guerre entre l'oligarchie qui ne veut pas militer davantage pour la libéralisation de l'économie, parce que c'est ce qui leur permettait de faire de l'argent, Et de l'autre part, des services secrets, comme je dis, relégués aux oubliettes, mais qui n'ont jamais voulu laisser le contrôle sur le pays. Alors, l'ascension de Poutine, c'est vraiment le résultat de cette lutte, de cette guerre que les services secrets ont remportée finalement. Et encore un autre volet, si je peux me permettre.
Allez-y.
En parlant des qualités personnelles, pourquoi il est arrivé au pouvoir en 2000, Yeltsin était absolument chancelant, puis sa santé n'était pas bonne, puis y compris sa santé mentale. Donc, il cherchait un successeur capable, quelque part, de le protéger, de protéger sa famille, de protéger ses avoirs aussi. Alors, une des qualités de Vladimir Poutine, dont tout le monde qui le connaît personnellement parle, c'est une loyauté. Une loyauté ou une fidélité à ce qu'il avait dit. Ben, il tient sa parole, quelque part. Donc, je pense que c'est aussi cette qualité personnelle qui a contribué à son arrivée au pouvoir. Et c'est ce qu'il valorise aussi le plus aujourd'hui parmi les gens de son entourage proche.
Et déjà, dès les premières années, on voit son discours à quel point il est teinté d'un grand patriotisme, d'un grand nationalisme, qui est aussi d'une absence de gêne pour imposer sa volonté, où que ce soit, et peu importe la manière. On l'a vu lors de la guerre en Tchétchénie, un moment charnière au tout début de sa carrière, où il avait dit en conférence de presse « il faut aller buter les terroristes jusque dans les chiottes ». Jusqu'à quel point c'est un moment important, ça, la guerre en Tchétchénie?
En fait, c'est fondamental. C'est ce qui a permis à la population de le connaître. Et quelque part, pour plusieurs, de tomber en amour avec. Après le chaos des années de Yeltsin, la population avait vraiment, mais vraiment besoin d'un homme fort, capable d'offrir la sécurité, la stabilité qui manquait dramatiquement pendant les années, pendant les années 90. Alors, il s'est fait connaître par cette phrase. Et plusieurs Russes, Russes dans le sens large, plusieurs citoyens de Fédération de Russie, en ce moment ont dit « Oh, finalement, il y a quelqu'un au pouvoir qui est capable de tenir les rênes, de nous protéger, de protéger le pays, de nous offrir la stabilité dont on a véritablement besoin ». Alors, ça a fait vraiment ce qui a renforcé, a jeté les bases de son pouvoir. Puis, la gestion de la crise tchétchène, on l'appelle parfois la deuxième guerre tchétchène, était particulièrement judicieux, par exemple, parce que depuis cette opération antiterroriste, parce que la Russie ne l'a jamais appelée une guerre, c'était une opération terroriste, il y a des parallèles à faire avec ce qui se passe aujourd'hui en opération militaire. En fait, sa gestion de la crise, de la deuxième crise tchétchène, lui a permis d'avoir toute la loyauté de Ramzan Kadyrov, qui aujourd'hui envoie le régiment tchétchène sur les champs de bataille en Ukraine. Donc, c'est la loyauté absolue de la Tchétchénie qui est prônée, proclamée, et c'est authentique par le leader de la République tchétchène aujourd'hui.
L'an d'Intent 2004, c'est une apologie de Vladimir Poutine sur fond de musique pop avec les Putin Girls. Vladimir Poutine est réélu à ce moment-là avec plus de 70% des voix. Il surfe sur une vague inédite de popularité, cultive savamment sa personnalité, beaucoup de marketing politique, l'homme viril, l'homme du peuple. Parlons de cette phase-là, de son parcours, où là, vraiment, il peaufine son image auprès de la population, notamment auprès des jeunes.
Mais il représente vraiment une grande différence avec son prédécesseur. Effectivement, il a toujours mis de l'avant sa virilité et sa force, sa masculinité aussi, ce qui fait partie quelque part du caractère national, avec toutes les conséquences politiques de la chose, même dans la législation au niveau des droits et des libertés de la communauté LGBT. Oui, c'est la cultivation de l'image de l'homme fort. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, aussi, il y a du marketing politique, mais aussi au niveau politique, de la politique interne, il y a quand même des changements qui sont très positifs pour la population. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, les salaires augmentent, le marché du travail est très, très vivant, donc il y a des investissements dans le social. Et ça, c'est un élément aussi qu'on a tendance à oublier en Occident. En fait, il y a une très grande partie de la population russe nostalgique et pour cause, avec raison, du passé soviétique, de la partie où était le filet de protection sociale. Parce que l'Union soviétique, comme un pays socialiste communiste, très autoritaire certes, investissait beaucoup dans le filet de protection sociale qui s'est effondré dramatiquement dans les années 90. Alors, le marketing politique aussi, mais aussi de l'aide véritable à la population. Donc, sa popularité s'explique beaucoup par l'augmentation du niveau de vie et aussi au niveau de la lutte contre la criminalité, encore une fois, débordante dans les années 90. Donc, il investit beaucoup dans les forces de l'ordre, ce qui a pour conséquence l'amélioration de la situation sécuritaire dans les rues, tout simplement. Donc oui, c'est une campagne politique d'autopromotion, mais c'est aussi des véritables changements au niveau social qui améliorent la vie des citoyens de Fédération.
Essayons maintenant de cerner les motivations profondes de l'homme politique qu'il est. On décrit souvent Vladimir Poutine comme un grand nostalgique de l'ère soviétique. On lui attribue d'ailleurs cette déclaration très célèbre. Hein. Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur. Celui qui souhaite sa restauration n'a pas de tête. Dans quelle mesure la volonté de restaurer cette puissance du passé est au cœur de son action politique? Vous qui êtes une experte de la politique étrangère de la Russie.
Je ne pense pas peut-être à la différence de certains experts. J'ai jamais pensé que l'objectif de Vladimir Poutine, c'est la restauration de l'Union soviétique. C'est un homme très calculateur, c'est un homme très rationnel, peut-être moins aujourd'hui, on pourrait probablement en discuter. Rationnellement parlant, restaurer l'Union soviétique, c'est une folie absolue. Et ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. N'oublions pas que l'Union soviétique, c'était une fédération où le centre fédéral subventionner plusieurs républiques. Alors, économiquement et aussi stratégiquement, ce n'est pas quelque chose que je pense Vladimir Poutine souhaite. Ceci étant dit, on en a parlé au début de notre conversation, je pense que son objectif comme base, vraiment pilier est d'assurer la souveraineté du pays, la sécurité du pays, de la façon qu'il la conçoit, lui qui est formé par les services secrets. Alors, son désir est davantage, selon moi, construire un genre de zone tampon qui protégerait les frontières russes, surtout les frontières qu'il considère les plus vulnérables. Ce sont les frontières du sud et les frontières de l'ouest, bien évidemment. Alors, ce n'est pas la restauration de l'Union soviétique et dans le contexte actuel, je ne vois pas, de volonté, d'objectif, mettons, d'engloutir, d'absorber l'Ukraine. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de créer une zone stratégique qui protégerait la frontière qui irait, selon moi, de l'enclave de Kaliningrad, donc à l'ouest de la Russie, par la Biélorussie, sur le territoire de l'Ukraine, ce sont les républiques de Donetsk et de Lugansk, en bas au sud, vers la Crimée. Alors, formé comme un genre de bande de protection géostratégique de la frontière ouest de la Russie contre le Poutine.
Voilà pour la dimension externe des choses. En matière de politique interne, vue de l'Occident tout le moins, on retient surtout son aversion, je dirais, à la dissidence. Politkovskaya, Skripal, Litvinenko, Navalny, les Pussy Riots et j'en passe ont été nombreux à goûter à la médecine de Vladimir Poutine. Angela Merkel a déjà affirmé que le modèle, et je cite, que le modèle de Poutine est le dictateur Staline. ni plus ni moins. Qu'en dites-vous?
Vous savez, il y a quelques mois, je vous aurais dit que associer Poutine avec Joseph Staline, c'est une exagération de un, puis c'est une exagération qui ne se tient pas. Aujourd'hui, j'en suis moins certaine. Parce que au niveau de la politique interne, on voit certainement de plus en plus d'autoritarisme qui devient pratiquement violent là à l'intérieur du pays. Ce qui est la chose qu'il faut comprendre, la relation entre Poutine et la population est un genre de pacte social qui a été conclu au début de sa première présidence. En fait, si on le met vraiment de façon simpliste et concise, Poutine a dit, il ne l'a pas dit littéralement, c'est vraiment ma vision de la chose, il y a un choix. On peut avoir un pays libre, donc avoir des libertés démocratiques. Vous l'avez eu dans les années 90. Avez-vous aimé ça? La réponse, vraisemblablement, très clairement, a été non. OK, donc il n'y aura pas de liberté démocratique, mais en contrepartie, je vous offre une stabilité. Il n'est pas le seul à le faire dans l'espace post-soviétique. Il y a plusieurs pays qui ont fait ça. Je peux penser à l'Azerbaïdjan, aux pays de l'Asie centrale. Donc, c'est un genre à la Biélorussie, très certainement. Donc, je vous offre une stabilité au détriment de liberté démocratique. Et la population a accepté ça, surtout parce que la génération la plus active en ce moment, c'était des traumatisés des années 90. Là, ce qui se passe, cette génération devient un peu plus âgée, même si elle est encore active et dans la vie sociale et dans la vie politique, dans les activités économiques. Mais une génération, très certainement, une génération et demie, a déjà grandi, qui n'a jamais connu ce traumatisme des années 90 et qui n'ont connu que la stabilité poutinienne. Mais ils sont contents de cette stabilité, sauf qu'elle ne suffit plus. Alors, ils veulent quelque chose d'autre. Donc, le tournant parmi les jeunes, la génération des gens qui ont 20, 25, 30, peut-être même 35 ans aujourd'hui, c'est plus un tournant. On a connu la stabilité, on veut plus de démocratie, plus de liberté. Et ça comme sort du pacte qui a été conclu il y a 22 ans. C'est pourquoi ils procèdent à davantage d'arrestations, à davantage de pression pour décourager cette nouvelle tendance.
Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций.
Ce discours m'a profondément marqué cette semaine. Et je vous traduis ici une partie de cet extrait de Vladimir Poutine le 16 mars. Chaque peuple, le peuple russe tout particulièrement, pourra toujours reconnaître la racaille et les traîtres, les recracher comme on recracherait une mouche entrée dans la bouche. Un peu plus loin, il ajoute « Je suis sûr qu'une telle auto-purification réelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays. » Madame Piskunova, 69 ans, après plus de 2 décennies au pouvoir, dont 2 ans de pandémie, plusieurs observateurs affirment que Vladimir Poutine n'est plus le même, qu'il a changé, qu'il s'est radicalisé, qu'il est en colère, hargneux, paranoïaque. Certains se questionnent même ouvertement sur son équilibre mental, ça va loin. Partagez-vous cette lecture du personnage tel qu'il est en ce moment même, en mars 2022?
Je ne pense pas que Vladimir Poutine soit paranoïaque ou malade. Je pense que c'est plus subtil, la situation d'aujourd'hui. Il a vieilli, très certainement. Il y a l'usure du pouvoir. Il y a le contexte géopolitique général qui peut être perçu comme menaçant pour la Russie et qui est perçu comme menaçant pour la Russie. Donc, à la différence de ceux qui pensent que c'est de la folie, je pense que Vladimir Poutine se considère en mission. C'est pas quelque chose qui est nouveau pour la Russie. En fait, une certaine vision messianique a été toujours présente quelque part dans la mentalité et dans la philosophie russe. Depuis très longtemps, en fait, il y a comme un genre de débat qu'on appelle le débat des slavophiles et des occidentalistes. C'est un débat qui a marqué la pensée politique, la pensée philosophique de la Russie depuis au moins mi-18e siècle. Et je pense qu'il s'est donné cette mission. Quelque part, je pense même que c'est vraiment une question très confidentielle, très intime, à quel point il est croyant. Orthodoxe, donc il est en mission presque, qu'on peut considérer presque divine, de protéger cette authenticité, cette unicité de la Russie, très spirituelle, ayant des valeurs de famille, de religion profonde, versus l'Occident qui est non seulement considéré comme un calculateur rationaliste immoral quelque part, mais aussi l'Occident qui essaie de façonner la politique, le régime, les valeurs de tout un chacun selon sa propre moule. Alors, il est en mission contre cette démarche occidentale.
Il écrit l'histoire, mais l'histoire s'écrit à travers la guerre en Ukraine, avec toutes les souffrances que l'on voit, avec tout ce qui pourrait être aussi potentiellement des crimes de guerre. Vous comprendrez la crainte que ça suscite. En terminant, en quelques mots, jusqu'où peut-il aller selon vous? Qu'est-ce qui va l'arrêter? Est-il toujours à l'écoute de son entourage? En d'autres termes, doit-on avoir peur de Vladimir Poutine?
Il va aller jusqu'au bout. Je ne vois pas, sérieusement et sincèrement, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait l'arrêter. Parce qu'il est en mission. C'est son caractère, c'est sa formation, c'est son profil politique, c'est son profil psychologique. Il ne peut pas se permettre de perdre la face, il ne peut pas se permettre de reculer. C'est pourquoi c'est tellement tragique, c'est pourquoi c'est tellement brutal. Et oui, je pense que c'est effectivement dangereux. On en a parlé, c'est quelqu'un qui a été formé par les services secrets et c'est le principe machiavélien, le but justifie les moyens. Donc pour lui, les souffrances qu'il inflige, c'est comme le mal nécessaire pour que le grand bien soit apporté. Et c'est absolument tragique. Et il y a encore un élément que j'aimerais apporter. Je pense que pour la première fois de sa carrière politique, Vladimir Poutine ne cherche pas nécessairement d'appui populaire. Je le constate pour la première fois. Après la Crimée, la population était clairement derrière lui. Là, il ne peut pas ne pas comprendre que la société russe est divisée. Il y a les gens qui sont toujours derrière lui, mais il y a quand même un mouvement assez important, pas nécessairement contre le régime, mais certainement anti-guerre, anti-brutalité, entre les enfants qui risquent et qui perdent leur vie aujourd'hui. Alors, mais j'ai l'impression que ça lui importe peu, rendu là. Et c'est ce qui rend la situation dangereuse et tragique. Et c'est pourquoi je pense que la meilleure chose à faire dans les circonstances, c'est de forcer les parties à s'asseoir à la table de négociation.
En espérant de tout cœur que ce souhait s'exauce, en tout cas, ça a été un plaisir de vous entendre. J'ai appris beaucoup sur l'homme et sur son parcours à travers le temps et à travers l'histoire. Ekaterina Piskunova, merci beaucoup. Спасибо большое.
Merci. Пожалуйста.